Didier Bourdon, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre actualité, le 15 décembre, sort « Mes très chers enfants », film, une comédie d'Alexandre Leclerc. C'est votre troisième tournage avec elle, un grand partage, et puis Garde alternée en 2017. Alors, tourner avec Alexandra, est-ce que c'est comme rentrer à la maison et avoir les pantoufles en dessous de la table ?
Non, pas vraiment, non. Non, c'est comme... C'est comme aller au collège avec un professeur exigeant, mais qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien préparer son travail. Non, c'est un vrai plaisir, c'est certain, mais voilà, c'est une réalisatrice très exigeante sur le texte. Donc les mots sont choisis, donc il ne faut pas changer, il faut bien bosser. Puis à partir du moment, bien sûr, on a bien préparé sa copie, maintenant que je la connais bien, ça se passe bien. Mais après, moi j'ai toujours aussi, moi-même, j'ai envie d'être content de mon travail, donc il y a toujours une petite appréhension avant une scène, mais un plaisir aussi de se dire, tiens, on va tout donner. Quand les scènes sont assez balèzes, quand il y a du texte un peu pointu, moi j'aime bien prendre un petit morceau de chocolat noir 2 ou 3 minutes avant, ça fait de l'effet.
Parce que voilà, pour le partenaire
non, mais pour moi, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que dans le travail d'Alexandre, souvent il y a des petits pavés, un peu moins dans ce film-là que dans le grand partage où il y a l'alterné, mais quand même où il faut être à la fois précis, rapide, qu'on comprenne, bien sûr. Et je sais que c'est payant parce que comme les mots sont choisis, voilà, il faut faire croire que ça vienne vraiment du personnage. Et je crois que beaucoup de gens qui ont vu le film nous disent non, avec Josiane, on dirait que vous connaissez depuis longtemps, il y a une vraie complicité, mais je crois que ça fait partie de ça. Ce travail donne l'impression qu'on va avoir un vieux couple et qu'on a des choses à se dire, qu'on ne cherche pas les mots. Et ça, c'est payant à l'écran. Quoi.
Au moment de l'écriture, à quel moment est-ce qu'elle vous a contacté et qu'elle vous a parlé du sujet?
Alors moi, elle m'a pas parlé du pitch, parce que je sais qu'elle aime bien en parler
à des pitch,
amis très proches. Non, moi je crois qu'elle m'a donné la première version, mais déjà scénarisée, qui a après évolué un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu, parce qu'il y avait 3 enfants au départ. Et donc après, elle a retravaillé avec Olivier Kahn, entre autres, qui est producteur du film, qui travaille à UGC, qui l'a aidé, l'a accompagné pour un peu de réécriture. Après, on a fait des lectures aussi. Et donc, ça a affiné les choses. Et ensuite, donc, à l'arrivée, il n'y avait que 2 enfants, un garçon et une fille. Et la couleur qu'a porté le 3e enfant, je crois que c'est le personnage
Esteban. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas envie, puisque vous aimez bien quand même écrire aussi, de mettre un petit peu votre patte?
Non, là-dessus, non, parce que... Alors, non, nous, on donne... Moi, j'ai donné un peu mon sentiment sur certaines choses. Hein. Mais avec Alexandra, ce qui est agréable, c'est même quand on n'est que acteur, c'est que franchement, voilà... Moi, je suis très sollicité souvent. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur l'écriture, la mise en scène et tout. Mais là, c'est agréable parce qu'on a vraiment affaire à quelqu'un d'assez autonome, qui quand même est ouverte, bien sûr, aux propositions. Mais là-dessus, j'avais pas trop de choses à lui dire. Non, je lui avais dit en effet que vers la fin, je trouvais que c'était un peu long le premier. Et c'était parce que, comme il y avait un 3e enfant, elle était obligée de le développer un peu. Et je crois qu'ils sont revenus là-dessus, voilà, en se disant
de concentrer.
C'est tout.
Et en fait, en parlant de José Belasco, donc, qui joue votre épouse, vous aviez déjà joué un couple dans Beaux Parents. Est-ce que ça aide? Est-ce qu'il y a des réflexes de parents qui reviennent et que vous avez pu, des repères que vous avez pu utiliser?
Non, je ne pense pas. Je pense pas. Au contraire, ça aurait pu être plutôt un écueil. Mais comme ce n'est pas du tout le même genre de personnage, comme en plus dans Beaux Parents, on était plutôt en deuxième plan, premier abord, puisque c'était plutôt l'histoire du gendre et de la fille. Là, c'était vraiment, on est en premier plan, après les enfants viennent nous rejoindre, bien évidemment, dans le film. Mais c'est quand même, il y a une crise vraiment entre les deux. Dans Beaux Parents, on est vraiment à peu près sur la même longueur d'onde. Il y a un moment donné dans le film où ça clash un peu entre nous deux, mais disons qu'on est à petit peu près sur la même longueur d'onde pendant tout le film, on adore notre gendre, etc. Là, quand même, dès le départ, c'est ce qui crée d'ailleurs le sujet, c'est que je vois que ma femme est vraiment dans un état pas possible. Les enfants ont décommandé pour Noël, donc là, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vraiment. Et il y a une scène qui est très touchante, puisque même moi, en tant qu'acteur, quand j'ai ouvert la porte, je savais pas que j'allais retrouver Josiane les bras en croix sur le lit. Et là, je me dis... voilà, l'acteur et le personnage, bien sûr, se dit, oula, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose, parce que je vais perdre ma femme, qu'elle va faire une dépression, ça va être terrible. Et c'est pour ça que j'ai l'idée de faire croire qu'on a gagné à l'auto. Donc, vous voyez, donc c'est un couple qui se reconstruit, qui va s'amuser, et puis après, bon, le boomerang va arriver, c'est-à-dire que leur idée est bien sympa au début, mais voilà, ça peut aller très mal très vite. C'est ce qui fait, à mon avis, les grandes comédies, c'est quand on n'est pas loin de la tragédie. Hein.
Chantal et Christian, ils sont malhonnêtes, selon vous ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est très bien écrit, hein, de la part d'Alexandra. Il y a un truc qui est super, qui est une très belle idée, qui fait beaucoup rire dans la salle en plus, mais qui dédouane totalement nos personnages. C'est qu'on, voilà, on dit qu'on a gagné au tour, mais on n'a même pas pensé à la somme. Ce qui fait que quand les enfants nous disent « Mais combien vous avez gagné ?» On est là. Et là, il y a un truc très drôle. Moi, je fais 10, elle a dit 8, on fait 10, 18. Et donc, ça, voilà, ça les rend sympathiques parce que, voilà, leur plan machiavélique est bien, bien, bien mince. C'est juste pour. Et la suite va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils s'amusent, mais ils ont oublié que ça pouvait porter préjudice parce que quand on fait croire à des gens que.
Faut assumer, là.
Et puis, les enfants, d'un seul coup, ils peuvent prendre des décisions dangereuses en disant, mais de toute façon, papa, ils m'ont de l'argent maintenant. Donc, on va pas dévoiler le film. Hein, ça peut vraiment vite vient au vinaigre.
Alors, celle qui joue votre fille, Sandrine, c'est Marie-Lou Berry. Donc, est-ce qu'on sent entre Josiane, qui est sa réelle mère, et Marie-Lou, une complicité sur le plateau ?
Alors, on pose beaucoup de questions à Josiane là-dessus.
Je pose à vous.
Oui, ouais, non, mais c'est intéressant. Moi, je dirais que c'était plutôt le contraire qui aurait pu être dangereux. C'est-à-dire, je pense que c'est quand on interprète des personnages, je pense que c'est bien d'incarner. Voilà, mon personnage ne ressemble pas du tout à ce que je suis dans la vie, c'est ça qui est intéressant, et pareil pour Josiane. Donc d'être devant sa fille, ça aurait pu être un peu embêtant. Mais là où c'est pas embêtant, c'est que déjà c'est une actrice plus que confirmée, Marie-Lou. Et donc elles ont joué vraiment naturellement. Après, ce que je pense, que j'ai dit, et Josiane a acquiescé, elle aurait pris mais une Marie-Lou débutante, peut-être que Josiane aurait été plus mal à l'aise en disant pourvu qu'elle soit à la hauteur. Quoi. Uh-huh. Mais là, bon, non.
Ah, ça avait plus de 30 ans de carrière.
Oui, Marie-Lou, ça fait un petit bout de temps. Bien sûr.
Vous aviez déjà joué avec elle dans Cendrillon, là.
Oui, alors moi j'avais très peu de scènes, mais je la connaissais. Oui. Non, puis elle est très... Et puis alors, il se trouve en plus aussi que... Mais c'est pour ça qu'elle l'a choisi, Alexandra. Hein, c'est que c'est l'emploi. C'est-à-dire que si Josiane avait eu une fille un peu plus... Peut-être un petit... Avec une autre personnalité, un peu plus effacée, un peu plus deuxième degré, un peu... Tandis que là, ce qui est bien avec Marie-Lou, bon, elle peut jouer plusieurs personnages différents, mais là, elle est bien parce qu'elle nous donne de la vigueur, puis elle est évidente, quoi. Alors quand même, vous avez gagné. Ah, c'est super, papa. Ce qui fait que... Elle donne du comique dans le film parce que son énergie nous rend quand même pitoyable. On dit merde, on est peut-être allé trop loin. Il faudrait peut-être dire le poteau rose. D'ailleurs, quand on dit la petite blagounette, ça se passe très très mal la scène où d'un seul coup elle se lève et elle a raison en disant mais vous êtes pitoyable quoi. Et en fait, c'était pour la bonne cause nous au départ. Hein.
Alors, le seul inconnu, si on peut dire, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, c'est Ben finalement.
Alors oui, enfin connu, il est un peu connu.
Non, mais je veux dire par rapport à vous, puisque vous connaissiez tous les trois.
Ah oui, on le connaissait pas, c'est vrai, mais ça c'est très bien, très vite fait. C'est un garçon vraiment adorable. Et puis, vous savez, très honnêtement, je vais vous dire une chose. Les gens qui viennent de la scène, en général, c'est comme si on avait fait la même école, c'est comme les polytechniciens qui se tutoient, qu'ils aient 20 ans ou qu'ils aient 80 ans. C'est un peu pareil, vraiment la scène rend peut-être les gens humbles d'ailleurs, et on a le même souci de ce travail de départ. Donc voilà, on incarne. La scène ne trompe pas, donc Ben vient de la scène, il fait du one-man show, et voilà, je sais qu'il était un peu ému, paraît-il, de travailler avec moi, je peux le comprendre, mais ça, tout de suite, moi, je mets les gens à l'aise, et lui a été super, super à l'aise aussi, très vite.
Alors, Alexandra vous a pas ménagé au niveau des couleurs, vous êtes quand même assez flashy, bling-bling, ça vous dérange pas le too much, finalement, hein, vous ?
Non, ça, c'est le côté anglais, j'ai eu la chance de travailler avec John Hurt, où on parlait de choses comme ça, dans un film de Raoul Ruiz, hein. On parlait du cinéma et tout, mais moi j'adore les inconnus, on a fait ça. C'est en fait le too much, c'est tellement la vraie vie. Je sais pas pourquoi je pense à ces images un peu terribles, Hitler recevant Mussolini. Mais quand même, on dirait, si on n'est pas au courant de l'histoire, les gens vont dire mais c'est quoi, c'était un court-métrage de l'époque, c'était des comiques. Vous rendez compte, les habits, quoi, et puis les tenues, les machins. Bon, d'ailleurs, il en a fait un film merveilleux, Chaplin. Hein, mais c'est ça, c'est-à-dire que dans la vie, on n'est jamais. Alors là, en plus, on est coloré parce qu'on joue à faire croire qu'on est des nouveaux riches. Hein. Donc il y a une nouvelle strate. Il y a un petit peu, on s'amuse. D'abord, on ne peut pas trop s'acheter des vraies choses qui vous coûtent vraiment très très cher. Et puis, même si on avait eu l'argent, je pense qu'on voulait jouer le côté clinquant parce que.
Fallait marquer le coup. Là.
Ouais, marquer le coup, puis s'amuser aussi. C'est une blagounette. Quelque part, quand ils disent ça, c'est pas faux. Ils se disent, bon, ça a marché, bon, vous avez compris, quoi, on n'a pas gagné, quoi. C'est après ça. Et c'est là où ils sont dépassés, parce que non. Ouais, non. Ça peut être pris au sérieux, ça.
Alors, le luxe est grisant, comme conduire une Lamborghini pour quelqu'un qui aime les voitures. Et vous, dans votre carrière, avec votre notoriété, est-ce qu'il y a des moments où vous avez pu faire des trucs de ouf, comme on dit, qui vous ont été autorisés, je veux dire, ou proposés?
Là, je la conduis pas beaucoup, mais c'était un plaisir de la conduire. De sortir, de rentrer dedans, c'était plus compliqué. D'ailleurs, ça donne une des scènes très très drôles du film. Oui, il y a des scènes, même d'ailleurs dans le grand partage d'Alexandre Leclerc, je sais que mon personnage était un petit peu aisé. Il avait une Jaguar, j'avais jamais conduit de Jaguar de ma vie, et j'avais des scènes assez longues dans la voiture, et c'était un plaisir, je me dis, tiens, voilà, bon, c'est pas pour ça que je l'achèterais, voilà, c'est des petits plaisirs comme ça, il y en a certainement d'autres, d'aller dans des endroits auxquels on pourrait pas penser, je pourrais pas, mais c'est vrai que ce métier peut... Moi j'ai été très peu acteur, somme toute, hein. Mais j'ai pas fait de film, j'ai fait un téléfilm en Afrique du Sud, mais ça m'a marqué, parce que j'ai découvert un pays... C'est vrai que ce métier peut offrir des moments incroyables parce que aller dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé de le faire de soi-même, quoi. Dans un film de Philippe Lachaud, je sais qu'il saute en parachute, sans parachute. Bon, on me l'a pas proposé, mais...
Ah, on en a fait deux avec lui, hein.
Ouais. Je sais qu'il y a des trucs comme ça qu'on vous propose.
Et Didier Bourdon, il est joueur?
Non, le loto, pas du tout. Non, alors pour plusieurs raisons, peut-être. D'abord, parce que comme je dis souvent, mon métier, c'est le loto. Et alors, je vais vous dire une chose, si je gagnais au loto, j'aurais peur de gagner, en fait. Parce que quand il y a certaines sommes folles et tout, il y a quelque chose qui me dit, alors est-ce que c'est mes ancêtres qui sont là, la philosophie méditerranéenne? Je pense que c'est un cadeau empoisonné, je le crois profondément.
Et si vous aviez eu 18 millions, vous auriez quoi? Créé votre maison de disques, votre studio d'enregistrement avec Michael Jones?
18 millions, ça me paraît, tout à fait, 18 millions, ça me paraît correct dans mon métier à mon âge. Pourquoi? Parce que là, quand on parle des 250 millions du dernier Euro Million, c'est de la folie, quoi. 18 millions, ça me paraît correct parce que j'aime tellement ce métier qu'en effet, peut-être que j'aiderais aussi, ça se dit pas, des gens, bien sûr, mais pas uniquement seulement donner de l'argent, mais créer des trucs. Créer des trucs pour qu'il y ait de la création, pourquoi pas, notamment comme vous dites avec Michael Jones, créer un studio pour que des musiciens puissent s'éclater, le louer, ou gracieusement, voilà, permettre à des gens de mais pas donner bêtement non plus, le fameux truc. C'est vrai que donner c'est bien, mais apprendre à pêcher c'est aussi bien, l'un et l'autre. Donc voilà, il y a ça. Après 18 millions, oui, dans mon métier, ben, je me dirais, s'ils ne veulent pas faire ce film, ben, moi je prends le risque et je le fais. Ça permet d'ailleurs des gens de travailler. Voilà, je pense que 18 millions c'est une somme énorme, mais si on le met dans le métier, si on aide, c'est une sorte de... Pas le mettre dans une ONG, je pourrais, dans l'absolu, mais là, il y a tellement d'ONG proches de chez nous, faire travailler des musiciens, faire travailler des trucs, monter un studio. Le studio d'enregistrement, c'est une très bonne idée d'ailleurs. Très belle idée, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des choses comme ça, et faire travailler des jeunes, faire des clips, et ça part vite, après l'argent. Mais bon, après, il faut bien gérer pour que ces choses-là génèrent un peu d'argent aussi, et que ça puisse permettre d'être le pied d'étrier à beaucoup de gens. Je l'ai fait à mon petit niveau, d'ailleurs, ce truc-là. C'est plaisant aussi, quand on mûrit, d'aider un petit peu les jeunes, de les épauler.
Votre album, Le Bourdon, il y aura une suite
Écoutez, alors c'est marrant parce que vous en parliez, parce que je crois qu'il y a un journaliste belge, la dernière fois, il m'a dit, c'est quand l'album? Et il m'a un peu... Ça m'a plu, ce qu'il m'a dit, ça m'a un peu dérouté, parce qu'il se souvenait que j'en avais parlé. Et j'ai été très touché par sa réflexion, et je sais que c'est un peu grâce à lui que j'ai fait l'album en période de Covid aussi, hein, parce que là, mon équipe était là, les mecs qui tournent en général, des chanteurs très connus, et là ils étaient là à cause du Covid, donc on a pu travailler. Et la suite, on propose des concerts, on propose aussi des festivals, et j'avoue que ma décision n'est pas prise, parce qu'on propose aussi des rôles, et il va falloir que je prenne une décision, parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Parce que qui dit un concert au début, ce sera peut-être 20 minutes, une demi-heure. Mais ça veut dire répéter avec les musiciens, que les musiciens soient libres, être à la hauteur de l'attente. Enfin bon, comme je suis perfectionniste, il va falloir faire un choix. Mais je me demande si je ne vais pas essayer de le faire. Pour m'amuser, j'ai l'âge aussi.
La musique, c'est venu de quoi? Déjà à votre adolescence ou,
Oui, tout à fait. Oui.
Avant, bien entendu, les chansons des inconnus, bien sûr.
Bien sûr, oui. Non, c'est venu. J'ai failli être guitariste classique, on va dire. J'étais certainement assez doué parce que j'avais un prof d'abord un prof à Mulhouse et un Saint-Germain-en-Laye qui était très très bien et qui m'avait donné le dernier morceau que j'ai joué à la guitare classique, c'était un morceau de Villa Lobos, je me souviens, qui était très très joli. Et elle m'a dit non, vous mériteriez, je vais en parler à vos parents d'aller dans telle école et tout. Et puis j'ai dit non, parce que je commençais le théâtre avec madame Jacqueline Rouillard-Jabour à Saint-Germain-en-Laye, qui a eu de très beaux élèves comme Eric Esposnino, Vladimir Jordanov, tout ça. Et j'ai adoré le théâtre. Et pour la petite anecdote, je l'ai dit de temps en temps, il se trouve que dans ma famille, il y a une violoniste qui est maintenant violoniste à l'Opéra de Paris, qui était donc dans notre famille, presque comme ma sœur d'ailleurs. Et quand il venait manger à la maison, la pauvre, à peine l'entrée débarrait, hop, elle foutait le truc sans violon. Elle... j'ai dit, putain, c'est trop dur pour moi. Je préfère rester autour d'une table, parce que quand même, en tant qu'humoriste, autour d'une table, on travaille quand même parce qu'on analyse les gens. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, j'ai fréquenté après des guitaristes classiques, et ils ont tous un peu le même profil. Ce sont des gens. Quand même, c'est comme les polytechniciens, pour revenir, il y a des gens qui sont plus matheux que d'autres, mais il y a des gens qui sont au-dessus du lot, qui sont. Mais quand même, on sent quand même une formation, il y a un travail. Je dis pas que le métier d'acteur n'est pas du travail, au contraire, mais c'est toute sa vie. Tandis que là, dès le départ, ils ont une formation d'une folie incroyable, ils travaillent sur un instrument tous les jours, comme les sportifs de haut niveau. Quoi. C'est, il y a presque une jeunesse qui passe à côté quand même, hein, si on veut vraiment être très très haut niveau. C'est pour ça que les Chinois sont très forts, ils font même un peu peur. C'est qu'on sent, on regarde les mecs, qu'ils ont passé toute leur jeunesse dans le clavier. Non, c'est vrai. Hein. L'instrument, c'est magnifique, mais c'est comme la danse.
Le Pink Floyd, c'est beau quand même.
Pink Floyd. J'adore.
Oui, c'est vrai que c'est beau.
Ah oui. J'ai réécouté un peu Syd Barrett, je suis tombé dessus, je ne sais pas pourquoi, en revenant de Strasbourg, ça m'a rappelé mes jeunes années. Et j'ai eu envie de réécouter. Et je suis tombé sur un truc, comme quand on découvre toujours des choses. David Gilmour qui reprend la chanson Wouldn't You Miss Me, et il la chante d'une manière incroyable. Parce que c'était un génie, ce mec-là, de Syd Barrett. Quand on voit les chansons, les mélodies, les trucs originaux, il avait à peine 22, 23 ans. Il y a des étoiles filantes incroyables. Et d'ailleurs, je suis allé en 2006 à sa mort, il y avait un truc hommage, j'avais amené ma mère à Londres, et il y avait donc réuni sur scène les Pink Floyd. Il y avait encore Rick Wright qui est mort 4 ans ou 5 ans plus tard, hélas, le pauvre. Bah, les Pink Floyd, c'est vraiment, d'abord, c'est un très bon guitariste, David Gilmour. Hein. On parle de musiciens, mais là, eux, ils ont inventé un univers, quoi, c'est ça. Après, c'est pas Pat Metheny, moi j'adore Pat Metheny, mais alors là, carrément, on est dans le guitariste hors pair, même dans l'hard rock, hein, il y a des gens qui sont extraordinaires. Mais c'est des malades, les mecs. Je suis sûr qu'ils doivent jouer tout le temps, en fait. C'est comme les tennisman, ils sont bien gentils, mais les Federer, les trucs, c'est des mecs qui passent des heures à des. Vous voyez, on peut pas être à ce niveau-là sans être un peu fou, j'allais dire,
obsédé.
Après, moi, dans mon métier, quelque part, il y a eu ça. J'aime faire des conneries tout le temps. J'aime y analyser, regarder. Je suis toujours. C'est peut-être ça qui a fait que je suis connu et reconnu et apprécié même des jeunes aujourd'hui, les inconnus. Ça, c'est parce que on était des passionnés, quoi. On écrivait, on travaillait, on jetait, mais on. Le truc des trois frères, là, je me permets parce que vous m'avez ouvert une petite porte, mais on m'a reparlé des chasseurs dans une émission pour le Nouvel Obs. Bah, le délire des chasseurs, c'est un truc qu'on a fait pendant toute une après-midi. On ne savait pas si on pouvait le mettre dans un sketch, d'ailleurs. Sur le bon et le mauvais chasseur, on a déliré et on attendait une heure, on faisait autre chose. Et d'un seul coup, il y a un des trois qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la différence ? On a dit ce délire. Après, on s'est dit on va essayer de le mettre dans le sketch, mais nous, ça nous faisait rire sur la longueur. Mais et bah, ça s'est passé quand même, donc on est content, mais. Mais il y a un petit côté enthousiaste. Dans l'enthousiasme, il y a le mot Dieu. Hein. Et je trouve que les artistes, à chaque fois que je vois des artistes, je vois Aurel San, par exemple, qui fait des choses formidables à nouveau. C'est un type, on sent qu'il est habité, ce type-là. On ne peut pas tricher.
Didier Bourdon, un grand merci. On rappelle donc Mes très chers enfants, qui sort le 15 décembre. Merci.
Merci.